Je suis en ce moment dans une série de prédications et je vais continuer dans cette série. Vous savez que jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup regardé sur deux rois où nous avons vu le ministère d'Élisée qui a été grandiose. Malgré l'idolâtrie du peuple, il a toujours été fidèle aux yeux du Seigneur et il a voulu justement prophétiser, apporter la parole de Dieu à ceux qui étaient loin du Seigneur. Et jusqu'à maintenant, enfin, nous allons voir aujourd'hui dans 2 Rois chapitre 7. Verset 3 à jusqu'au verset 7. Et jusqu'à le verset d'aujourd'hui, nous avons vu plein de miracles qui se sont réalisés à travers Dieu, mais aussi dans ces miracles, Élisée a été souvent utilisé, que ce soit pour la purification de l'eau. C'est vrai qu'Élisée a purifié une source d'eau empoisonnée près de Jéricho, la rendant potable. Il a aussi intervenu pour la résurrection du fils de la Tsunamite. Il a aussi aider une veuve endettée en multipliant miraculeusement son huile, lui permettant de rembourser ses dettes et de subvenir aux besoins de sa famille. On a aussi vu dans la prédication la guérison de Naaman. Nous avons vu aussi Élisée qui a été entre guillemets persécuté par le roi de Juda, mais aussi par le roi de Syrie, puisqu'il pouvait deviner toutes les stratégies que le roi de Syrie complotait contre l'Israël. Il y avait donc plein d'épisodes où il y avait la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Et puis, dans le chapitre 6 et aussi chapitre 7, nous voyons encore les Syriens attaquaient l'Israël. Et là, maintenant, le peuple est confronté à une situation de détresse. Et là, on pourrait penser, mais Seigneur, pourquoi tu accordes autant de détresse, d'épreuves à ton peuple? Et là, on pourrait encore remémorer l'histoire d'Israël, où malgré tous ces miracles, ils ont désobéi tout simplement à Dieu. Et c'est pour ça, je pense, que Dieu a voulu utiliser d'autres peuples comme les Syriens pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas dans le droit chemin. En tout cas, ils étaient dans une situation d'être désastreuse. Il y avait une grande inflation. Imaginez la vie d'aujourd'hui. Enfin, là, en ce moment, on vit l'inflation. Plus de 4% d'augmentation, 4, et quelques, je ne sais plus. Qui a été augmenté et là on a du mal avec toutes ces inflations, mais ici à l'époque c'est pas seulement 4% ou 5-10%, c'est 100%, même voire 200-300-1000%. Imaginez, pour acheter une tête de veau ou de bœuf, il fallait presque un an de salaire. Vous vous rendez compte? Donc, la situation était vraiment désastreuse. Il y avait une panique générale à la recherche de nourriture. Et à cause de cette situation désastreuse, il y avait aussi une perte de leur sens éthique. On voyait des femmes manger même leur propre progéniture. Hein, les deux femmes se plaignaient devant le roi d'Israël en disant « Voilà, c'est injuste !» Et le roi intervient « Mais qu'est-ce qui est injuste ?» Ben, on avait promis de manger nos progénitures, nos enfants. Et donc, on a mangé mon enfant hier, et aujourd'hui, on voulait manger son enfant et elle a caché. Vous vous rendez compte? Le sens éthique qui est complètement disparu devant la faim. Donc, au lieu de se repentir de leur désobéissance à la loi et aussi à l'idolâtrie, le roi de la Samarie est furieux. Pourquoi il est furieux? Parce qu'il voit, à cause de cette famine, à cause de cette éthique qui est complètement bouleversée, il voit que c'est l'Éternel qui a fait ça. Il comprend que c'est l'Éternel. Et au lieu de se rabaisser, de s'humilier devant l'Éternel, la solution, ou plutôt... L'acte qu'il fait, c'est, enfin, il choisit de tuer Élisée. au lieu de se repentir, il choisit de tuer le prophète de l'Éternel qui a apporté cette situation désastreuse. J'aimerais vous lire donc 2 Rois, chapitre 7, verset 3. Devant cette situation, tout à coup, la scène change. On ne parle plus à Élisée. Et là, on voit une autre scène, situation chaotique, mais c'est la même scène, mais voilà, ce sont les lépreux que nous voyons. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Voilà, le narrateur change de scène. On n'est plus à l'intérieur de la ville, mais à l'extérieur de la ville. Vous savez que les lépreux ne pouvaient pas vivre avec les gens normaux ou non malades, puisqu'ils étaient considérés comme des gens impurs. Et c'est pour ça qu'ils devaient fabriquer des huttes à la porte de la ville pour y vivre et aussi pour demander de l'aumône aussi aux gens qui passaient. Je continue la lecture au verset 4. « Si nous songeons à l'entrée dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Samaries, des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Là, ils sont dans une phase où ils doivent faire un choix devant une épreuve. Est-ce que vous avez aussi peur de changement comment vous réagissez devant des épreuves comme ça? Est-ce que vous avez la foi avec le Seigneur et vous avancez ou vous êtes derrière et vous ne faites rien du tout? Sachez que parfois, oui, on peut rencontrer ce genre d'épreuves, mais sachez que ça peut être aussi une opportunité pour découvrir la volonté de Dieu. Les 4 lépreux se sont dit, si nous restons où nous sommes assurés de mourir, mais si nous partons d'ici, nous risquons également de mourir. Donc là, ils étaient dans le dilemme, donc ils étaient confrontés à un dilemme impossible, mourir de faim à l'intérieur de la ville ou prendre le risque de se rendre à l'armée syrienne. Le désespoir les a conduits à prendre une décision audacieuse, c'est-à-dire aller au camp des Syriens. Je vais vous lire les 3 versets suivants, 5, 6, 7. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Éthiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Voilà, à la suite d'une panique générale, parce que Dieu a intervenu, donc d'origine surnaturelle, Dieu a fait entendre le bruit de chars, de chevaux, d'une grande armée, et les Syriens ont pris fuite aussi vite que possible en abandonnant tout sur place, c'est-à-dire la nourriture, leurs biens matériels, l'argent, l'or, des vêtements, etc. Et puis, les lépreux qui arrivent dans le camp des Syriens, qu'est-ce qu'ils découvrent? Voilà, toutes ces choses qui étaient là, à leur disposition. Et ils pouvaient les prendre. Et là, on peut un peu réfléchir. La foi, il peut y avoir... Enfin, en ce moment, on entend tellement de mauvaises nouvelles partout dans le monde, n'est-ce pas? Même déjà dans la semaine, nous avons vu des catastrophes naturelles. Que ce soit en Libye, au Maroc, si encore plus loin, nous voyons aussi pas mal de choses qui se passent des incendies un peu partout, au Canada, à Hawaï. J'ai entendu aussi qu'il y avait aussi des conflits ethniques en Cameroun. En Europe, il y a toujours la guerre en Ukraine qui se passe encore entre la Russie et l'Ukraine. Et puis, comme je vous avais dit, il y a aussi l'inflation qui nous touche particulièrement aussi. Quand on regarde aussi l'Asie, il y a aussi des tensions entre la Chine et Taïwan. Si on va encore plus loin, le Japon qui déverse en ce moment des tonnes d'eau radioactive dans l'océan Pacifique. Est-ce que vous savez ça? Depuis quelques semaines, il déverse. Et donc, vous ne saviez pas. Voilà, c'est ce qui se passe ce qui se passe en ce moment dans l'océan Pacifique. Et donc, avec le courant d'eau, ça va tout polluer. Ça va tout polluer. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. On se dit, mais c'est pas possible. Où est-ce qu'on va? Mais pourquoi le monde ne réagit pas devant ce genre de choses? Il y a tellement de... Voilà. On peut rencontrer tellement de choses. Tomber dans le désespoir total devant ce genre de situation. Mais c'était vraiment une question de vie ou de mort pour les quatre lépreux. Ils étaient complètement désespérés. Qu'ils restent ou qu'ils partent, ils étaient prêts à mourir. Et ce que moi j'aimerais vous encourager, c'est que dans ce genre de situation, ne laissez jamais le désespoir vous paralyser. Mais ayez la foi en Dieu, qui est le maître des situations impossibles. Aux yeux d'humains, on se dit, mais c'est pas possible, mais dans ces situations impossibles, Dieu agit. Marchons dans la foi, suivons le Seigneur, et nous pourrons voir sa providence et sa grâce abondante à l'œuvre dans notre vie, comme a été pour ces quatre lépreux. J'aimerais vous lire le verset suivant, verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Ils sont aux anges, ils découvrent la nourriture et en plus de la nourriture, il y a des trésors incroyables. Imaginez, devant vous, on vous offre gratuitement 1 000 euros, comme ça, 10 000 euros. 1 million. Rien que d'imaginer, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez pensé à l'instant même juste une petite idée de partage avec les autres ou pas? Vous savez, la cupidité n'a pas de fin. La cupidité n'a pas de fin. Ils auraient pu se contenter, voilà, devant tous ces trésors, les avoir. En plus, nous avons de l'inflation aujourd'hui, donc c'est bien d'avoir un coup de pouce comme ça. Mais après avoir mangé, après avoir pris des trésors, après avoir caché pour eux-mêmes, ils se disent, mais ça va pas là, c'est pas bon parce qu'il y a d'autres, mon peuple est en train de souffrir. Et là, au verset 9, puissent se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Voilà la bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils ont pris conscience que ça venait de Dieu. Ce n'est pas par leur propre force qu'ils ont pu acquérir tous ces biens matériels, toute cette nourriture. Ils ont réalisé qu'ils avaient une certaine responsabilité envers les autres, surtout pas envers son peuple. Ils ont compris que garder cette bonne nouvelle pour eux était une mauvaise action. Et donc, ils prennent des décisions de partager cette bonne nouvelle. Tout comme les lépreux avaient donc une bonne nouvelle matérielle à partager, nous aussi, vous et moi, nous avons une super bonne nouvelle spirituel à partager avec le monde. Dieu, Dieu, qui apporte la paix, l'amour, la sérénité. Il y a quelques semaines, une sœur de notre église a perdu une famille proche. Certains, enfin, je pense que j'avais déjà annoncé. Et juste avant le décès, le dernier dimanche, nous avons partagé sur cette situation parce que la sœur éprouvait une grande tristesse devant cette famille qui est en train de partir, mais qui n'était pas chrétienne. Alors, on a prié ensemble. Je l'ai encouragée à partager cette bonne nouvelle avec cette femme. Elle n'avait pas forcément le courage jusqu'à maintenant, mais on a vraiment prié ensemble, Seigneur, donne-lui une situation favorable pour qu'elle puisse partager. Et miraculeusement, elle n'avait pas forcément le courage avant, mais dans la semaine même, le Seigneur a permis qu'elle ait un temps assez spécial, intime, avec cette femme malade. Elle a pu partager l'Évangile. Et à ce moment-là, le Seigneur l'avait inspirée pour donner les paroles. Elle m'a partagé tout ce qu'elle m'a partagé, je me suis dit, mais chère sœur, c'est pas toi qui lui as partagé ça, c'est Dieu qui t'a inspiré. C'était un message presque parfait. Cette personne était rebelle contre Dieu, blessée, avait une mauvaise image, mais malgré tout, elle a pu vraiment être inspirée pour lui transmettre ce message comme quoi Dieu est bon. Dieu n'est pas aussi mauvais qu'elle pense. Et surtout, elle a aussi dit qu'elle a aussi invité à ouvrir cette porte parce que Dieu nous respecte, n'ouvrira jamais cette porte. Il est en train de toquer tout simplement, mais c'est soi-même qui doit ouvrir cette porte pour accepter le Christ. Elle a entendu et 2 jours plus tard, elle est décédée. Je ne sais pas ce qui s'est passé, où elle est en ce moment. Est-ce qu'elle a accepté ce message et maintenant est-ce qu'elle est auprès du Seigneur ou pas? On ne sait pas. Mais nous avons fait notre devoir. Comme ces 4 lépreux qui ont annoncé la bonne nouvelle. Imaginez la situation dans la ville de Samarie. Il y avait une grande famine. Une grande famine. Et cette nouvelle, à mon avis, chaque seconde, chaque heure, il y avait des personnes qui mouraient. Donc plus on retardait cette bonne nouvelle, annonce de bonne nouvelle, plus il y avait des morts. Je vais vous lire le verset suivant, verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. » Ah oui, ça c'est ce qu'on a dit. Et puis là on voit, « Nous n'agissons pas bien. » Il y a une sorte de forme de repentance. Oui, après avoir pris plein de choses pour eux-mêmes, là ils se sont dit, mais nous, on était assez égocentriques. Et là, maintenant, ils ont été transformés. Et puis, après avoir repenti, ils veulent maintenant transmettre cette bonne nouvelle aux autres. Dans 1 Corinthiens 9, 19, il est dit, « Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. » Et malheur à moi, c'est Paul qui parle, si je n'annonce pas l'Évangile, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dans 1 Timothée 2, 4, il est dit aussi, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que nous devons agir pour ouvrir notre bouche. Dans Marc 16, 15, il est dit que, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. Oui, Dieu est le chemin, la vérité, la vie. Ce Jésus qui est notre espérance, notre espoir. Oui, personne ne vient au Père que par Jésus. Et c'est pour ça que nous devons ouvrir cette bonne nouvelle. C'est par Jésus que nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu. J'aimerais conclure. Un jour, un chrétien alla se plaindre à Dieu au sujet de son pasteur. « Seigneur, je crois que mon pasteur ne va pas bien en ce moment. Avant, je recevais beaucoup au travers de son enseignement, mais à présent, j'ai l'impression de ne rien en retirer. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» Alors Dieu lui dit ainsi, « Tout va bien chez lui. » C'est chez toi qu'il y a un problème. Commence par donner ce que tu as reçu et alors tu pourras recevoir davantage. C'est une anecdote que j'ai trouvée. Ça m'a fait rire. Ouais, la première bénédiction que Dieu nous appelle à partager, c'est bien sûr l'Évangile. L'apôtre Paul exprime à travers tout à l'heure le message de tout à l'heure, mais aussi à travers aussi ce que Élisée nous raconte. Voilà, nous devons vraiment annoncer cette bonne nouvelle. J'aimerais maintenant vous inviter à fermer les yeux, avoir un temps de réflexion personnelle en pensant cette histoire. Des lépreux de Samarie. C'est vrai que, à travers cette histoire, nous avons reçu, nous avons vu ces lépreux qui rencontrent la grâce, la bonté de Dieu. Et ils ont senti cette responsabilité de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et pour nous, est-ce que nous ne gardons pas le trésor de l'Évangile pour nous-mêmes? Est-ce que nous partageons avec le monde qui a désespérément besoin de cette grâce salvatrice de Jésus-Christ? Vraiment, je vous invite à avoir un temps de réflexion sur ces lépreux repentants qui annoncent la bonne nouvelle, qui parlent, qui ouvrent leur bouche, selon aussi les circonstances, la situation. Et voilà, que nous puissions aussi, nous-mêmes, pratiquer la foi en action. Que cette foi que nous avons reçue ne reste pas chez nous, mais que ce soit vraiment pratiqué. Et pensez maintenant autour de vous, des personnes à qui je pourrais transmettre cette bonne nouvelle. Est-ce que je leur montre déjà un bon témoignage? Est-ce que je suis un bon modèle de Christ, un bon disciple de Christ? Est-ce que si l'occasion se présente, j'aurai le courage de dire quelques mots? Ou voilà. Après une minute de réflexion, je vais terminer par la prière. Pensez les personnes à qui vous pourriez partager cette bonne nouvelle. Seigneur, tout d'abord, j'aimerais vraiment te demander de nous donner ton courage pour ouvrir la bouche. Aide-nous aussi avoir cette responsabilité pour partager la bonne nouvelle. Et dans ce partage, accorde-nous aussi ta sagesse. Oui, parce que tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups. Et tu nous as aussi recommandé d'être prudents, comme les serpents, et simples, innocents, comme les colombes. Seigneur, que ce soit fait vraiment selon, avec tact et sagesse. Nous avons aussi, aide-nous aussi à avoir cette, non seulement qu'on ne le fasse pas par devoir, mais par compassion, par amour du prochain. C'est notre authenticité de l'amour qui peut toucher l'autre. Seigneur, aide-nous aussi à être un moyen, un outil pour la propagation de ton évangile. Et pour cela, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, merci encore pour tout ce que tu as déjà accompli en nous. Et continue en tout cas à nous faire grandir dans la foi et à expérimenter plein de choses comme ces lépreux ont pu vivre. Et grâce à eux, c'est vrai que toute une population en Samarie a été sauvée. Seigneur, oui, merci pour ton intervention et de ce que tu vas faire aussi à travers nous. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.